BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Épisode 18 aujourd'hui, épisode 18 des pros des cryptos, parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. On essaie de vous y préparer à cet avenir financier aussi des crypto-monnaies qui continuent de se développer. Avec nos trois experts, Nicolas Chéron est toujours avec nous pour Zone Bourse, Charlie Perrault, journaliste au JDN, le journal du net. Bonjour Charlie.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue Owen Simonin également, alias Asher, et sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue à tous les trois. Donc on rappelle, les crypto-monnaies, c'est bien sûr de la diversification de patrimoine. Actif, spéculatif et extrêmement volatile. D'ailleurs, Nicolas, on en a vu des vertes et des pas mûres depuis votre dernier passage. C'était il y a un moment maintenant, c'était il y a un bon mois. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans cet univers en 4 semaines?
Alors, il se passe tellement de choses qu'il va falloir synthétiser. Mais en gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'adoption continue. Les volumes entrants continuent. Nous sommes dans un monde d'ultra-liquidité. On l'a vu sur les marchés actions qui battent des records. Cette ultra-liquidité, eh bien, elle découle également sur le marché des crypto-monnaies. On a vu toutes les raisons qui faisaient que les gens achetaient des crypto-monnaies, que ce soit de la diversification, croire en l'avenir, spéculer, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois et demi? Eh bien, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a gagné 20%. Seulement. C'est déjà pas mal. On est passé de 1900 milliards à 2300 milliards de dollars. Nous sommes donc sur un record historique de la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas du ressort du Bitcoin, qui ne bouge plus, en fait, depuis un mois, voire même 2 mois, neutre, on va dire, autour des 55 000 dollars. Et ce sont les altcoins, donc les autres cryptos, qui ont pris le relais. Très certainement dans une optique de diversification, et on le verra aussi parce qu'il y a des projets qui voient le jour et qui sont maintenant soutenus soit par des groupements d'investisseurs, des grandes banques, etc. Et les altcoins ont vu leur capitalisation boursière passer de 800 milliards à 1200 milliards. Donc là, on parle de 50% de hausse en l'espace d'un mois. Donc il y a une acquisition, mais il y a même une certaine frénésie. Hein. On a vu le Dogecoin, blague dont on a parlé à maintes reprises. On parle de multiplier par 10 sur un mois, mais on parle de multiplier par 100 sur 6 mois. Hein, quand même, on parle d'une capitalisation boursière qui dépasse les 70 milliards de dollars.
Le Dogecoin, qui n'était qu'une blague à la base.
Soit plus que Vinci, Safran ou autre. Donc voilà, l'adoption est très forte, et donc même les blagues fonctionnent. Et puis on a bien évidemment... la Bitcoin dominance aussi, bien évidemment. Étant donné que tout monte, mais que le Bitcoin ne bouge pas, on est passé en fait d'une dominance de 70% il y a à peu près 6 mois à 45%. Donc il y a toujours ce rôle principal du Bitcoin comme étant la référence.
Mais une forme de début de rééquilibrage peut-être dans le rapport de force entre crypto-monnaies.
C'est ça, et notamment avec l'Ethereum, Ethereum dont on avait parlé, parce que lorsque vous m'aviez posé la question de la diversification, notamment il y a 2-3 mois quand on commençait les émissions, je vous expliquais qu'il était très important d'avoir certes du Bitcoin, mais ensuite il y a un trio qui est toujours proposé, c'est 50% de Bitcoin, 30% d'Ethereum et 20% d'autres crypto-monnaies. Et celui qui a fait ça, eh bien, depuis 2 mois, n'a pas vu son Bitcoin monter, mais a gagné 70% sur l'Ethereum.
Waouh, c'est pas rien. Il s'en est passé des choses, hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bitcoin actuellement à 57 000 dollars et l'Ethereum qui a donc franchi depuis les 3 000. On est actuellement à quasiment 3 500 dollars sur l'Ethereum. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces records? Pendant que le Bitcoin plafonne, l'Ethereum bat record sur record, jour après jour. Comment est-ce qu'on l'explique ça, Owen?
En fait, c'est plutôt qu'il rattrape son retard. C'est-à-dire qu'à par rapport à son top, à son ATH, le all-time high, c'est-à-dire la plus haute valeur qu'il a atteint en 2017, il avait touché les 1400 dollars, quand le Bitcoin avait touché les 20 000 dollars. Depuis le début de ce bull run, donc depuis la hausse de la plupart des crypto-monnaies, le Bitcoin, lui, performe. Il a touché les 60 000 dollars, soit 3 fois plus qu'à son top de 2017. L'Ether, lui, était, on peut le dire, à la bourre. Il était en retard parce qu'il avait du mal à dépasser les 2 000 dollars. Il a rebondi sur cette barrière psychologique parce qu'on ne l'avait jamais atteint. Et il a été un petit peu au-dessus de son top de 2017, mais ne l'avait pas brisé comme le Bitcoin. Et donc, ça ne surprend pas grand monde quand on voit l'Ether, rattraper son retard et reprendre une valeur un peu plus cohérente à par rapport au Bitcoin qu'il a toujours suivi en 2017 en tout cas.
Et vous Nicolas qui suivez de près les cours, vous estimez que c'est que le début à 3005 là sur l'Ethereum, le potentiel reste largement...
non, on va pas jouer au jeu des prévisions. Non, mais ce que je note sur l'Ethereum, depuis 1 ou 2 mois, ce phénomène d'adoption vraiment globalisé est en train de se faire. pour tout vous dire, moi qui suis en relation avec énormément d'investisseurs actions, depuis un mois, deux mois, on s'ennuie grandement sur le marché actions. Du coup, beaucoup de monde est allé faire un petit tour sur les cryptos. Et qu'est-ce qui explique aussi ce rattrapage de l'Ethereum, cette forte hausse? C'est que je pense qu'en termes de capitalisation, il était plus petit, il avait un rattrapage à faire, il est plus volatile. En fait, ça me fait un peu penser au couple or et argent. Quand les métaux montent fort, on peut avoir parfois une hausse de l'or de 10% et l'argent va suivre avec un punch de 20 ou 30%. Là, c'est un peu la même chose. C'est Batman et Robin, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et là, le petit a rattrapé son retard sur le grand. Je pense que les néo-investisseurs qui sont à la recherche de volatilité préférer l'Ethereum. Et puis, il y a aussi des grandes banques. Maintenant, on a vu JP Morgan cette semaine qui faisait les éloges de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. On a des grands instituts qui s'intéressent désormais à d'autres cryptos que le Bitcoin uniquement.
Le Bitcoin va devenir jaloux. La place de l'Ethereum, la place montante de l'Ethereum pour peut-être un jour viser le trône occupé par le Bitcoin. On verra, on pourra en reparler, on aura peut-être l'occasion. Charlie, comment est-ce que vous la jugez, cette nouvelle dimension de l'Ethereum désormais?
Oui, je voulais rappeler quelques chiffres. Déjà, c'est la deuxième valorisation, après Bitcoin. Donc, c'est pas rien. Aujourd'hui, ça tourne autour de 390 milliards de dollars. Donc, si on veut jouer aussi les comparaisons, c'est à peu près Mastercard aujourd'hui. C'est aussi 150 millions d'adresses uniques. Alors, les adresses, c'est des portefeuilles existants, mais ça veut pas dire qu'il y a 150 millions de personnes qui ont un compte, entre guillemets, Ethereum. Il peut y avoir une personne qui en ait plusieurs adresses. Ça donne un petit peu aussi l'ampleur aussi d'Ethereum. Et enfin, c'est aussi 1,5 million de transactions quotidiennes. Donc, c'est sûr que c'est pas, par contre, pour le coup, Mastercard ou Visa qui sont à plusieurs milliards par jour. Mais c'est quand même pas trop mal. Et c'est aussi une communauté de développeurs qui est très importante aujourd'hui. On n'a pas vraiment de chiffres précis. Il y a des estimations. On parle des fois de 200 000 développeurs dans le monde. On parle de quelques milliers, dizaines de milliers par mois qui sont vraiment actifs. Mais en tout cas, c'est certainement la crypto, la blockchain qui a le plus de développeurs aujourd'hui. Et c'est aussi une fondation, c'est-à-dire que derrière Ethereum, il y a une fondation qui distribue de l'argent pour des projets, qui fait la promotion forcément du protocole. Et de l'autre, il y a aussi Consensys, qui est une entreprise qui spécialisée, qui crée des logiciels aussi sur Ethereum et qui participe justement à faire monter en puissance tout cet écosystème.
Tout ça est très très impressionnant, ça va très très vite. Cet écosystème crypto-monnaie se constitue à la vitesse grand V. Et puis il y a comme ça des grands mouvements de plaques et l'Ethereum qui est en train de monter et d'émerger là de plus en plus à la surface. Tout ça, c'est bien beau, mais à la fin, la question, la sempiternelle question, elle ne change pas. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'Ethereum, Owen?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où le Bitcoin a montré que c'était possible, il a montré la technologie de la blockchain, la décentralisation et tout ce qu'on pouvait faire avec cette technologie, Ethereum, c'est un écosystème qui rend ça plus accessible. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet facilement de créer sur la blockchain. Si, imaginons que demain, vous voulez créer votre crypto-monnaie, il y a très peu de chances que vous créez votre propre blockchain, préparez vos mineurs pour sécuriser, mettre à jour le réseau, c'est un énorme travail. Vous allez partir d'un moteur et d'une technologie existante. On parlait la dernière fois des projets blockchain qui servent à améliorer une solution qui existe déjà, mais il y a des projets blockchain qui sont là pour fournir une technologie blockchain. On appelle ça les blockchains d'infrastructure. Eh bien, Ethereum, c'est l'une des plus grosses blockchains d'infrastructure. Énormément de projets très connus. On parlait des stablecoins la dernière fois. Le plus gros, USDT, est construit à la base sur Ethereum.
Et donc, en fait, il utilise la blockchain d'Ethereum.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va payer les frais de transaction en Ethereum, en Ether, du coup, pour fonctionner, faire la transaction de cette crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum. Et donc, c'est un réseau qui est énorme, qui est sécurisé et qui permet de construire plus facilement. C'est donc une question d'accessibilité. Les smart contracts, toutes ces révolutions, elles ont été non pas inventées par Ethereum, mais simplifiées et tout le monde peut construire assez simplement, évidemment, grâce à des protocoles comme Ethereum qui ont rendu ça accessible.
D'accord, c'est un support qui permet en effet de multiplier les usages. On peut l'illustrer ça justement, Charlie? Oui. Il y a des secteurs qui utilisent de plus en plus nombreux la technologie, la blockchain Ethereum?
Oui, beaucoup. On pense tout de suite à la finance, puisque avec le transfert d'actifs, on a eu récemment encore la Banque Européenne d'Investissement qui a fait une émission obligataire de 100 millions quand même d'euros sur la blockchain Ethereum. Il y a beaucoup d'exemples de ce type depuis depuis quelques mois. Il y a d'autres secteurs qui s'en sont emparés assez rapidement. On parle beaucoup des jeux vidéo. Bon, dès qu'il y a une nouvelle technologie, en général, c'est une industrie qui s'y prend, qui prend les technos.
Parce que c'est plus facile que Bitcoin.
Parce que la
blockchain Bitcoin ne le permet pas.
Elle le permet pas, parce que la blockchain Bitcoin est plutôt pour faire vraiment du transfert de pair à pair. Ça a été inventé vraiment pour cet usage-là, alors que Ethereum, pour faire plein d'applications très différentes. Et je pensais effectivement donc aux jeux vidéo. On peut aussi penser à l'assurance voyage. C'est un exemple qui a été beaucoup pris parce qu'il a été expérimenté notamment par AXA, qui permet, Owen parlait de smart contract, donc où on met dans un contrat, on définit des conditions. On dit par exemple, si votre avion a 3 heures de retard, vous êtes remboursé automatiquement. C'est plein de petites choses comme ça, de cas d'usage qui se développent dans pas mal de secteurs. Il y a encore aussi le luxe, l'agroalimentaire. Oui. Après, ça reste beaucoup encore d'expérimentation. C'est pas quelque chose très grand public, mais en tout cas, on avance.
Mais vu tous ces usages qu'Ethereum rend possible, c'est un instrument Ethereum de décentralisation peut-être encore plus large que Bitcoin.
Alors, au niveau de son usage, oui, parce que c'est plus accessible. Désolé. Et du coup, le Bitcoin, en fait, permet de faire ces choses-là. Le moteur derrière permet tous ces outils, puisque la blockchain décentralisée, le Bitcoin le proposait déjà. Mais comme l'outil était trop complexe, ce n'était pas facile à mettre en œuvre. Et du coup, avec un outil facile à programmer, un outil avec des smart contracts, donc un smart contract, c'est très simple. En fonction de ce qu'on lui donne, il peut prendre des décisions et réaliser des actions. Du coup, s'il se passe quelque chose, alors il va se passer autre chose. Ça permet de programmer et d'imaginer plein d'usages. La blockchain, on l'a vu, c'est un outil qui était puissant, ça donne plein d'idées, mais il faut pouvoir les mettre en œuvre. Ce qui fait que la blockchain n'est pas démocratisée aujourd'hui, c'est parce qu'on a encore besoin d'usages. On attend des fondamentaux. On attend d'utiliser tous les jours la blockchain et que ça devienne évident. Et ce ne sera évident que quand il y aura beaucoup plus d'applications et donc beaucoup plus de gens qui auront pu utiliser simplement cette technologie. C'est la seule, pour moi, grosse différence entre Ether et Bitcoin, c'est cette simplicité et le fait qu'on peut beaucoup plus facilement créer des choses sur Ether, alors que sur Bitcoin, ce serait possible, mais il faudrait beaucoup de temps, beaucoup plus de patience et beaucoup plus de temps.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on a ces questions très pratiques qu'on essaie de relayer aussi pour rendre ce rendez-vous, les pros des cryptos, le plus accessible possible, histoire de préparer chacun au monde de demain et la finance de demain, et puis tous ces usages que vous nous parlez qui seront peut-être ceux de demain également. Cette question donc d'un certain nombre de particuliers, on parle de plus en plus des paiements en Bitcoin. Est-il aussi possible de payer en Ethereum, tout simplement, Owen?
Totalement. Pour le coup, aussi simplement que le Bitcoin. La plupart des gens qui proposent Bitcoin mettent tout de suite le petit frère, il y a Robin avec Batman, obligatoirement. Et ils acceptent également les stablecoins. Et la plupart des stablecoins sont aussi sur le réseau Ether. Donc pour le coup, oui, totalement. Tout autant que Bitcoin.
Bon, Ethereum qui coche plein de cases donc. Mais vous nous connaissez sur BFM Business. On aime bien gratter aussi là où ça fait mal. Est-ce qu'il y a des points faibles malgré tout?
Totalement.
Oula.
Et je pense que la compréhension de ses points faibles explique pourquoi il rattrape un peu de son retard au niveau de son prix. Oui. Le point faible, c'est que tout comme Bitcoin, il est basé sur le proof of work. Des mineurs, un réseau qui consomme et qui est plutôt lent. C'est-à-dire qu'on peut faire une quinzaine ou une vingtaine de transactions par seconde sur le réseau Ether. En comparaison, Visa en fait passer 3500. Il existe aujourd'hui des nouvelles blockchains qui font passer jusqu'à 10 000 transactions par seconde et qui sont moins coûteuses. En effet, ces dernières blockchains sont sorties plus récemment et ont donc pris du recul, profité des erreurs de certains pour partir sur les meilleures technologies au dernier moment.
C'est déjà une mamie Ethereum là.
Tout à fait, à l'échelle de la blockchain, ça va tellement vite, c'en est une. Mais là où il faut que jeunesse se fasse, Ether a le plus gros réseau et le plus d'usages. Tout le monde utilise Ether, tout le monde veut être compatible. Les nouvelles technologies et les nouvelles blockchains veulent être compatibles avec Ether parce que c'est le plus utilisé. Et du coup, Ether entame une grosse mise à jour, Ether 2.0. Le passage de cet ancien Ether à un Ether qui consommera jusqu'à 1000 fois moins et qui pourra faire passer jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Et
c'est donc ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité de changer de dimension.
De changer d'échelle, exactement. Ouais. Et le problème, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, ok, contrairement à beaucoup de blockchains qui se lancent et qui ne sont pas utilisées, donc si elles s'enrayent et s'il y a un problème, c'est pas grave, Ether, c'est l'un des réseaux les plus utilisés dans le monde de la crypto-monnaie. On va donc changer le moteur d'un des plus gros réseaux blockchain, l'un des plus utilisés. Si Ether cale, pour faire très simple, si le réseau s'arrête, c'est des centaines, voire des milliers de projets qui sont en danger et leur blockchain ne tournera plus, ils ne pourront plus faire de transactions. Et donc ça faisait peur et c'est pour ça que beaucoup de gens attendaient avant d'investir dans Ether. Il y a eu, il y a quelques jours, la première communication entre la nouvelle version et l'ancienne version d'Ether et ça s'est très bien passé. Ce qui prouve que
ils sont bien entendus, c'est ça, c'était compatible.
Ils ont réussi à communiquer et donc ça prouve qu'ils vont réussir ou du moins c'est bien parti, de changer le moteur de cette Formule 1 en pleine course. Et donc ça redonne beaucoup d'enthousiasme aux investisseurs et beaucoup de gens se disent « Ok, Ether va faire sa mise à jour sans souci pour rattraper son retard technique. » Et donc très rapidement, beaucoup de gens veulent en détenir.
Changer le moteur de la Formule 1.
Owen, sur le 2.0.
Alors, comme très souvent, l'équipe d'Ether donne une date approximative et là, on est sur des vrais, on va dire plutôt des on n'est pas sur des fourchettes de temps, c'est plutôt des râteaux. On est sur 12 à 18 mois, mais à tout moment, ils ont expliqué qu'ils voulaient faire ça bien. Et s'ils estiment qu'il faut 8, 12 mois de plus, Ether l'a déjà fait, il le fera, ils prendront le temps qu'il leur faut.
D'accord. Pour l'instant, 12 à 18 mois pour cette échéance, ce délai pour voir Ethereum, l'Ethereum 2.0, la nouvelle version, donc, voilà, et véritablement prendre son essor et son élan. Mais elle était belle, cette image-là. Changer le moteur de la F1, changer le moteur de la voiture de course en pleine course, justement.
C'est exactement
ça. Sans l'arrêter au paddock. Charlie, là-dessus, sur les points faibles d'Ether, qu'Ether essaie justement de pallier. Comment est-ce que vous voyez les choses?
Oui, je rajouterais peut-être les trois petits points pour compléter ce que Owen a dit. Il y a notamment en ce moment des frais qui sont très élevés. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous payez avec votre Mastercard, votre Visa, vous ne payez pas. Enfin, vous n'avez aucun frais. Là, sur Ether, ça devient très cher si vous commencez. Moi, j'ai déjà fait encore l'expérience il y a quelques temps. Si vous commencez à payer 15, 20, j'ai même 100 dollars pour une transaction.
Vous allez réessayer quand même ou vous allez plus?
Non, je ne suis même pas allée au bout du processus, du coup. arrêter. Mais voilà, donc ça c'est quand même un des gros soucis. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup là qui sont en train de se détourner parce que ça devient trop cher pour eux. Après, il y a le langage de programmation qui est assez complexe, qui s'appelle Solidity et qui nécessite quand même beaucoup d'apprentissage pour les développeurs. Ils peuvent pas faire ça du jour au lendemain. Et enfin, moi, le point que je vois aussi qui est un peu important, c'est comme Bitcoin, en fait, il n'existe pas aujourd'hui d'application grand public, de mass market aujourd'hui, qui fait que ça va faire décoller, en gros, cette techno et que ça va faire aussi décoller le secteur.
Voilà. Ouais. Il manque de concurrents aussi, Ethereum ou pas?
Alors là,
les seuls sur son marché,
pas du tout.
Non,
c'est la guerre.
Il y a du monde.
Ah oui. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'alternatives qui, du coup, ont profité des erreurs d'Ether. Mais eux, avant, ils ont pu préparer le moteur avant la course, donc c'était plus simple. Mais non, il y a énormément. Certains se disent Ether Killer et veulent le remplacer. Et beaucoup d'autres viennent avec une approche différente et se veulent être compatibles avec. D'ailleurs, c'est ceux-là qui, très généralement, prennent de l'avance. Autant être intercompatibles avec les autres blockchains plutôt que d'avoir un protocole fermé, surtout dans ce monde où tout se veut décentralisé. Centralisé et intercompatible, quoi.
Ouais. L'Ethereum, 3 500 $ en ce moment. On a presque tout dit. C'est bonne ambiance quand même dans les cryptos. Ether Killer. Ah, c'est chaud. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent que tout ça reste très spéculatif et c'est de la diversification. Évidemment, la super diversification patrimoniale. Puisqu'on chante les louanges de l'Ethereum, on va continuer. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller sur l'Ethereum dans les prochaines semaines, les prochains mois? Nicolas, je vous réveille là, c'est pour vous.
Un repli pour en acheter. Non, tout simplement. C'est justement pour ça que je posais la question à Owen. Cette date butoir du passage au 2.0 est extrêmement importante. Et quand j'en discute avec des gros investisseurs qui structurellement sont plus intéressés par l'Ethereum que le Bitcoin, ils attendent en fait que cette mise à jour soit effective et terminée pour pouvoir renforcer leur position déjà existante et être tranquille dans une optique de moyen long terme. Et je pense qu'ils ont été peut-être surpris de la hausse de ces dernières semaines puisque les cours sont partis quand même en anticipation du fait que tout se passe bien, mais c'est peut-être dû à cette publication qu'a fait l'équipe sur la compatibilité entre les deux. Et puis après il y a des seuils psychologiques, 2 500, 3 000 $ sur l'Ethereum, et pour ceux qui n'en auraient pas, et connaissant la volatilité des cryptos, et étant donné la hausse récente, tout trou d'air de 20-25% comme on a eu sur le Bitcoin récemment pourrait être l'occasion de prendre le train en route.
Bon, Owen, qu'est-ce qu'il faudra surveiller d'autre, à part les points bas, les creux que guette Nicolas?
Il y a quelques mises à jour techniques. Il n'y a pas que cette grosse mise à jour 2.0. D'accord. Il y a en plein été, il y a la mise à jour London, qui elle s'appelle comme ça. Et cette mise à jour va uniformiser les frais sur les transactions, histoire de les baisser. Naturellement, il y a plein de petites mises à jour très techniques qui concernent bien la blockchain, qui font que ça peut aller beaucoup mieux. Et il y a déjà des gens qui sont en train de construire sur le deuxième Ether. Avant que les deux réseaux communiquent totalement, on appelle ça le layer 2, la seconde couche. Il y a déjà des gens qui utilisent Ether, et ça m'est déjà arrivé de faire sur le nouveau réseau Ether une transaction qui m'a coûté 0,1 $ et qui a été faite en quelques millisecondes. Donc on voit la performance du nouveau réseau et la réalité, il faut voir à quel point les gens vont commencer à se tourner vers le nouveau modèle.
C'est ça. Changer le moteur en pleine course, sans arrêter la voiture et le véhicule. Il n'y a pas qu'Ethereum dans la vie des cryptos ces derniers jours. Une autre actualité, Revolut et Bitcoin. On va revenir au roi Bitcoin quand même. On y revient toujours, tous les chemins mènent au Bitcoin dans l'univers des cryptos. Revolut permet désormais de retirer ses Bitcoins. Ça semble assez anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est très important.
En effet. Alors, quoi qu'il arrive, Revolut a été en avance parce qu'ils ont permis aux gens d'investir sur les crypto-monnaies. Mais ce n'était pas des crypto-monnaies. Ce sont des images miroirs qui ont le même prix. Donc ça permettait aux gens de s'exposer et de parier. Ce sont des ETF, si je ne dis pas de bêtises.
Et des CFD aussi. Et de ne pas les détenir, juste de faire du trading, en fait.
C'est ça. Donc c'était pour le côté spéculatif. C'est bien parce que ça a apporté de l'intérêt pour les gens. Mais pour les puriste de la crypto-monnaie, l'intérêt du Bitcoin, c'est de pouvoir le détenir soi-même, d'être sa propre banque. Et pour le coup, bah là non, ça permettait juste d'investir dessus. Et maintenant, Revolut propose le retrait, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, la régulation le permet, et parce qu'au début, s'ils n'ont pas permis aux gens de le faire, c'est parce qu'ils avaient sûrement peur du régulateur, et donc au début, ils ont mis des images miroirs pour être certains de se protéger. Dans un second temps, ça veut dire que leurs utilisateurs leur ont demandé, ah c'est bien, j'ai du Bitcoin, mais mes amis les retirent, pourquoi moi je peux pas les retirer? Ah, bah en fait, il faut qu'on vous explique, vous avez pas vraiment du Bitcoin. Et du coup, ça prouve qu'on va dans la bonne direction, celle des valeurs de la crypto-monnaie, les valeurs du self-banking. Et c'est très important car ça montre une évolution de la maturité du marché en général et des services que peuvent proposer ces identités. Ça reste une banque quand même.
Charlie.
Oui, bah c'est un mouvement, je pense qu'on va voir s'accélérer, hein, puisqu'il y a aussi Robinhood qui ne permet pas aussi de retirer ses cryptos. PayPal, dont on a déjà beaucoup parlé, même chose. Bah, encore Robinhood cherche à faire la même chose. Pour PayPal, je suis plus dubitatif puisque c'est quand même un écosystème assez fermé. Donc je suis pas sûre qu'ils le proposent en tout cas à court terme. Mais en fait, ça fait sens aussi de pas pouvoir les retirer. Enfin, je vois ce que t'en penses parce que quand on est novice, en fait, on s'en fiche de les avoir ou pas. Donc, comme ce sont des entreprises qui s'adressent plutôt au grand public, pour moi, ça ne me choquait pas plus que ça. Mais c'est vrai, quand on est un investisseur un peu plus averti, c'est quelque chose qui est essentiel. Ouais.
Voilà, c'est quelques évolutions dans l'univers des crypto-monnaies que vous nous révélez, que vous nous dévoilez chaque vendredi au service de nos auditeurs et téléspectateurs sur BFM Business. Merci à tous les trois. Charlie Perrault, le journal du net à nos côtés chaque semaine. Owen Simonin, alias Hacheur, et sa chaîne YouTube. Hacheur, H-A-S-H-E-U-R. Merci beaucoup, Owen, d'être passé nous voir à Paris. Nicolas Chéron pour Zone Bourse. Salut Nicolas. Bon retour à tous les trois. Le Bitcoin toujours aux alentours des 57 000 $. Je ne vais pas dire trop d'arrondis parce que je vais me faire gronder après. 57 240 $ en ce moment à 17h tout rond sur le Bitcoin. Dans un instant, on va se rebrancher au marché financier et à la bourse. À l'approche de la clôture, le CAC 40 gagne un peu de terrain. Plus 0,3%. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.